Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous. En mode Ligue des Champions, Rotten sans flamme. Ça y est, on a mis nos habits de lumière étoilée aujourd'hui. Pendant 2 heures, on va se régaler à lancer ces barrages. C'est 16e de finale, alors on va même pas appeler ça des barrages, c'est des 16e de finale de Ligue des Champions. Il y a plus de suspense quand tu dis ça, avec deux clubs français qui s'affrontent. Et mes deux clubs en plus, Monaco et le Paris Saint-Germain. On va en parler dans Rotten sans flamme, bien sûr, pendant au moins une heure, parce que on va consacrer aussi une grosse demi-heure à l'Olympique de Marseille. Encore des péripéties énormes. Et ben, on a une belle équipe autour du plateau, comme tous les joueurs, avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Tu préfères qui entre Paris et Monaco?
Paris et Monaco, bah, j'ai quand même le cœur parisien, mais bon. Après, quand on a marqué l'histoire de Monaco,
c'est
compliqué. Sportivement,
t'as marqué plus Monaco ou Paris?
Sportivement, quand t'atteins la finale avec des champions, écoute, il y en a un qui va pas te dire le contraire, hein, c'est Jean-Michel Larquet.
Eh ouais.
Salut Jean-Mi.
Bonsoir les gars.
Ça va Jean-Mi?
Salut Jean-Michel.
Tout va bien.
Tout va bien.
Madame Lavarquie, tout va bien.
On a trois finalistes de Ligue des Champions quand même ce soir.
Ah ouais,
ça c'est quelque chose.
Il s'est même arrêté de pleuvoir sur le Pays Basque. Donc
ah bah oui, tout enfin, va bien.
Il a pas plu du tout. Hein,
même ah ouais.
Pas
je te rassure. Tout, hein, je te rassure. Le point météo est important. Ah et ouais. Bah, on va dire qu'à Paris, on a une belle journée aussi ensoleillée.
Pour une fois. Ah,
pour une fois. Et pour que ça dure.
Comme disait Coach Courbis, il pleut des flaques.
Il pleut des flaques et je sais pas. Peut-être que chez Jean-Pierre Papin, il pleut des flaques. Salut Jean-Pierre.
Salut les amis.
Salut JPP. Ah,
il pleut des flaques, je vous raconte. Ah. Il pleut des flaques. Bon.
Vous connaissez la différence entre JPP et vous deux quand même?
La différence,
bah, c'est que lui il a gagné avec des champions.
Il y en a beaucoup quand même.
Il y en a beaucoup de différence.
Ah, mais lui il l'a gagné avec des champions. Ouais. Il s'est pas contenté d'une finale, c'est ça le truc.
Bah, c'est pas la seule différence. Hein,
C'est
pas faux.
Il l'a gagné, mais il en a perdu aussi.
C'est très très bonne question pour démarrer le.
La question, la différence Ligue des Champions.
Oh. Ah, c'est très bien.
Moi,
c'est
j'ai attendu toute ma jeune enfance que Jean-Pierre il mette un ciseau du pied gauche, mais il a jamais réussi.
Ouais. Et je te rassure, je pourrai plus jamais.
Ah ben c'est sûr qu'avec le genou que t'as, oui, ça c'est sûr.
Ah ouais, ça c'est clair.
À mon avis, Jérôme, ne va pas sur ce terrain-là. Je pense que tu auras.
Oh là oui, devant le but, on va éviter de faire un débat devant le but. Ouais.
Ouais,
c'est
sûr. Je pense que.
Écoute, oui, écoute, j'ai osé, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait.
Tu le remets dans le tas,
et puis ça continue.
Ouais. Je serais régalé avec Jean-Pierre.
Jean-Pierre n'a jamais mis de corner rentrant.
Bah, ça, c'est vrai.
Voilà.
Bah ouais, voilà.
Eh bah, oui.
Ah, ah si
bon. Ah merde.
Voilà.
Merde. Valenciennes, Stade Français en Coupe de France.
Ah ouais.
Eh ben voilà.
Eh ben.
Stade Français, ok.
Oh la vache. Il y avait.
Beau match.
Ouais.
Ah bah écoute, et Vincent Moscato en face.
Ouais, c'était Vincent Moscato. Ouais,
ouais si tu veux. Ouais.
Dans les buts, ouais.
Bon, un Rotten sans flamme, Ligue des Champions ce soir, avec ce barrage aller entre Monaco et le Paris Saint-Germain. On lance le match dès 19h. Rotten se chauffe. Est-ce que le plus dur commence? Pour Luis Enrique, supporter parisien, on vous attend. C'est depuis le début de saison, on parle des moments décisifs, les matchs à élimination directe avec ces phases aller-retour en Ligue des Champions. On y est. On fera le débat donc autour du coach espagnol du Paris Saint-Germain. Un ancien joueur des deux clubs, il n'y a pas que Jérôme Rotten qui a joué à Monaco et à Paris. Dans Allo Jérôme à 18h45, Jérémy Ménez, notre ami, sera avec nous. Lui aussi, il est très concerné par ce match. Il a marqué Monaco, il a marqué le Paris Saint-Germain version Qatari. Il sera avec nous donc à 18h45. Et puis à 18h30, le procès ce soir de Pocognoli, l'entraîneur monégasque, et de son bilan insuffisant à Monaco. Il sera attaqué et défendu par la Dream Team, donc soyez là. À 18h30, évidemment, on démarre par l'OM. Tout de suite, finalement, Benatia Sekeda.
Allez, reste encore un peu.
Peut-être t'affaiblir sportivement, mais te renforcer en tant qu'institution. Il faut savoir les prendre.
C'est pas d'un coup de baguette magique que tu vas tout changer.
Dans pas longtemps, vous verrez qu'il y aurait deux personnes à notre place. Il faudra encore leur laisser du temps de travailler, parce qu'à Marseille, t'as jamais le temps.
J'en parle même pas, parce qu'on en parle.
Il avait laissé entendre qu'il allait pas faire long feu à l'OM, parce que pour lui, le poste était usant.
A few moments later.
Le boss, Macourt,
ne veut pas entendre parler d'un départ de Benassia.
Ah ben c'est la fête à Neuneu, hein, ça y est, on change tout.
My goal every season will be to win the league title.
Il va falloir mettre des sous. Alors puisque vous en avez, ben c'est ce que vous ferez.
Sekeda, ça veut dire il reste, je répète, il reste.
Motivé.
On va jouer jusqu'au bout, on va essayer d'aller chercher quelque chose. Et puis voilà, faut repartir.
Celui-là, on l'a pas vu arriver, on l'a pas vu partir non plus.
Ah, allez, reste encore un peu.
Cet énième retournement de situation à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, deux jours après l'annonce de sa démission. Mehdi Benatia a trouvé un accord pour rester à son poste de directeur sportif au moins jusqu'en fin de saison. Communiqué officiel du club ce matin, Benatia va piloter l'ensemble des activités sportives et sera en charge du choix du futur entraîneur. Autre décision prise par l'actionnaire Franck McCourt, présent à Marseille aujourd'hui, la mise à l'écart du président Pablo Longoria, qui va voir son rôle évoluer vers des responsabilités institutionnel. Voilà, autant dire placardisé, Pablo Longoria.
Fallait lui trouver un poste.
Message de Franck McCourt ce matin. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous au service de l'OM. Florent Germain est avec nous. Salut Flo.
Salut à tous.
Salut Flo.
Flo, il enchaîne
et
les
toi,
journées.
Et toi, tu restes Flo?
Ah, moi, je reste. C'est Kéda.
J'y suis et j'y reste.
Ah, il y reste.
Magnifique. Ouais. Bon, Flo, on peut dire que McCourt est venu régler tous les dossiers et remettre de l'ordre ce matin.
C'est un peu ça. Effectivement, le communiqué, il est de 10h50 ce matin. Il se murmure que McCourt a appelé très tôt aujourd'hui même Mehdi Benatia, presque pour le sortir du lit et surtout le convaincre en quelques mots qu'il fallait qu'il reste absolument à l'OM. C'est ce qu'il a dit dans le communiqué. Ce qui est important, c'est qu'il parle quand même de préavis que Mehdi Benatia a accepté de prolonger donc jusqu'au mois de juin. Donc ce mot préavis, il est important. Ça veut dire que normalement au mois de juin, Mehdi Benatia est censé partir. Après, tout le monde refera un point et il verra peut-être plus clair. Mais oui, non, mais à l'heure où on parle, c'est on nous fait bien savoir qu'il serait faux d'interpréter le fait que Mehdi Benatia est tout puissant et s'inscrit sur une longue durée à l'OM. Donc il faudra suivre ça, savoir si lui retrouve un peu du peps, des forces, des idées, Mehdi Benatia, et s'inscrit dans la durée, et si Franck McCourt y voit également plus clair. Bon, le rôle de Pablo Longoria, vous l'avez dit, c'est plus le début de la fin de l'aventure, hein, très clairement pour le président de l'OM, parce que son rôle dans les instances, il y a beaucoup moins d'influence que par le passé. Et d'ailleurs, Franck McCourt a eu l'honnêteté aujourd'hui, il y a quelques minutes là, de dire aux supporters que s'il maintenait Pablo Longoria en poste, c'était pour que l'OM ait encore une voix au conseil d'administration de la LFP, et qu'il en a besoin. Donc au moins, ça a été un discours sincère. D'ailleurs, je vous donne quelques infos que McCourt et Benatia ont livrées aux supporters. Ils ont confirmé l'arrivée imminente d'Habib Bey quand celui-ci sera libéré. On en reparlera, j'imagine, dans l'émission.
Exactement.
Bonnes nouvelles.
Voilà, que sera libéré du Stade Rennais, puisqu'il est passé aujourd'hui devant la commission juridique de la LFP. McCourt a confié qu'il allait s'atteler rapidement à nommer un nouveau président. Donc au moins les choses sont claires. Ouais. Et il a eu la sincérité de dire qu'il n'avait pas apprécié les banderoles samedi au Vélodrome, qu'il a besoin des encouragements et du soutien des supporters. Et puis il a confirmé qu'il restait au club et qu'il n'y avait aucune vente en cours, quoi qu'il arrive. Qu'il était venu en gros mettre de l'ordre et demander aux joueurs d'accrocher le podium et de gagner la Coupe de France.
Flo, reste avec nous, la une de Rotten sans flamme. Longoria déclassé, Benatia conservé, l'arrivée imminente d'Habib Bey. Est-ce que Franck McCourt a pris les bonnes décisions? 32-16 pour participer avec nous. Comment tu juges tout ça, Jérôme? Est-ce que tu te dis que l'OM se remet à l'endroit après cette crise traversée depuis quelques jours?
Bah, le football circus qu'on avait trouvé à Nantes un certain temps, ils l'ont transféré, du moins quitta, il l'a filé à McCourt ou à Longoria, et puis ils s'en sont occupés, parce que franchement c'est du grand n'importe quoi. Alors après, moi je veux bien qu'il l'écarte Longoria, donc en gros il écarte Longoria, donc c'est Longoria qui est responsable de la situation, le seul en gros, parce que c'est il faut le traduire comme ça. Si tu dis à Mehdi Benatia tu reviens, ça veut dire que Longoria c'est lui qui prenait les décisions, donc ok, on a acté, du moins moi j'ai compris, je comprends ça comme ça, la responsabilité on va dire à 50%, parce que De Zerbi est parti, donc à l'autre 50%.
Ou alors ça veut dire autre chose, il pouvait en rester qu'un et il fallait choisir entre Longoria et Benatia.
Non mais ça je veux pas l'entendre, parce que de toute façon ça c'est les fourbes du football, en fait, tu vois, c'est des mots forts que je vais dire, mais
mais à l'arrivée, c'est l'ambiance du football. Et moi, c'est ce qui m'a fait sortir du football, parce que c'est ça, c'est tous ces faux culs, ces faux derches qui se disent pendant un certain temps, on est unis, on va mourir ensemble, on est ensemble, ceci, et puis des grandes phrases, et lui c'est le meilleur, et lui c'est ceci, et lui c'est cela. Et puis à l'arrivée, quand t'as la pression qui te rattrape, et que t'as la pression populaire, la ferveur, et puis que t'as des choix qui sont pas cohérents, et que t'as des échecs, et j'en parlais il y a une quinzaine de jours, qui arrivent, et tu prends en pleine tronche, parce que en effet, tu voulais, à soi-disant, pas que Mehdi, hein, mais d'autres, fermer des bouches, à l'arrivée, tout explose. Et que aujourd'hui, moi, ce que je trouve pas normal, mais c'est mon avis, c'est ma personnalité. Moi, je ne comprends pas comment tu peux faire un message sur les réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux, comme tu as fait il y a quelques jours, et là faire machine arrière parce que le propriétaire t'a rappelé. Mais il faut, mais franchement, on est où là? On est où en fait aujourd'hui? Tout ce que t'écris, tout ce que tu dis, en fait, il y a aucun, ça part en fumée. Non, mais c'est exactement ça. Donc moi, j'ai du mal avec ça. C'est encore une fois très souvent et trop souvent le cas dans le football. C'est malheureux que ça tombe sur des anciens joueurs comme Mehdi, parce qu'à l'arrivée, tout ce qu'on a connu quand on était joueur, il faut aussi s'en servir et se rappeler, avoir de la mémoire quand tu deviens dirigeant. À l'arrivée, j'ai l'impression que la mémoire, elle s'évapore aussi, c'est la même chose. Ouais. Et tu retiens ce que tu as envie de retenir. À l'arrivée, c'est pas un problème, je m'en fous, je lui souhaite bonne chance, je leur souhaite bonne chance, parce que là, en effet, il y a du boulot. T'imagines quand même que Mehdi Benatia, qui écrit ce truc-là, avec tout ce qui sort, tout ce qui s'est dit, les joueurs qui, soi-disant, n'acceptent pas tout ce qu'on a dit hier, n'acceptent pas ce qu'il a voulu mettre, l'exigence et le ceci, cela, lui et toute sa garde rapprochée, tous ses adjoints, parce qu'il n'est pas tout seul là-bas. Et aujourd'hui, donc, t'expliques à tout le monde et aux joueurs, ah ben non, en fait, il part pas, il reste. Non mais pour préparer le match à Brest, magnifique. Et après, on nous explique, c'est juste un préavis, mais c'est quand même lui qui va faire venir donc apparemment Abi Bey, un de ses amis, d'accord? Parce que, excuse-moi, mais je suis encore une fois, je vais peut-être être cash, mais Abi Bey, en quoi il a la crédibilité d'entraîner l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Mais expliquez-moi, à part du copinage, mais t'as l'impression que ce copinage, il a été fait aussi dans le recrutement de certains joueurs, il a été fait dans le recrutement de certaines personnes qui occupent des fonctions à l'Olympique de Marseille. Donc en fait, c'est que ça, c'est un bordel sans nom. Donc écoute, McCourt, tant
après,
mieux.
Après, trouver un entraîneur pour terminer cette saison,
mais écoute,
c'est pas non plus
peu importe.
Le plus
moi,
évident.
Je t'ai
une histoire de copinage, c'est qu'en fait Abi Bey, c'est vrai qu'il coche quand même certaines cases.
Il coche
même
quoi?
Si... Bah non, mais déjà lui, il est pas exigeant Marseille. Sur la durée du contrat, parce que c'est un rêve pour lui.
L'équipe,
l'OM.
L'équipe d'Abi. Attendez, écoutez. D'Abi Bey, avec Abi Bey, elle en a pris 3, je crois, contre Marseille.
Oui, mais c'est pas.
C'est ça.
Et ça, l'OM est en difficulté pour trouver un entraîneur. Vous n'allez pas le découvrir dans le contexte actuel. Ils ont essayé, d'après ce qu'on sait, chez Abi Alonso. Oui, Abi Alonso, il a dit non, mais attendez. Vu le contexte de l'OM, je vais pas venir maintenant. Donc Abi Bey, c'est vrai qu'il a cette passion. Ça, on va pas lui enlever de l'OM. Donc pour lui, c'est un rêve. Il avait déjà déclaré que.
Il peut peut-être accepter.
Il peut pas dire non. Il peut pas dire non à l'OM.
Parce que à Bardonado, il a pas la passion de l'OM.
Mais ça, c'est pas moi qui dis. Si l'OM ne compte pas sur Pancho Bardonado jusqu'à la fin de saison,
c'est
leur choix.
Ça, c'est clair. Non, mais ça, c'est sûr. Mais excuse-moi, Flo, et je laisse la parole à Jean-Michel et à Jean-Pierre. Mais excuse-moi de penser que à Bardonado, il a certainement plus de crédibilité que Abi Bey à entraîner l'Olympique de Marseille. Bon. Après, attention. Pour l'instant, à court terme, c'est toujours pareil. Sur le long terme, pour reconstruire quelque chose, bien sûr que je te dis pas qu'à Bardonado, il a les épaules pour le faire. Ça, on est d'accord. Mais à court terme, plutôt que de te précipiter à faire un choix, comme le dit Jean-Michel, qui est quand même, franchement, c'est hallucinant.
Bah oui.
Quand tu vois dans l'état où est le vestiaire de Rennes et qu'aujourd'hui, juste parce qu'il a l'étiquette du mec qui parle bien et du mec qui était un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, écoute, il y en a d'autres. Moi, je le dis, je l'ai lancé et je le dis pas parce qu'il est là. Mais appelez Jean-Pierre Papin. Appelez Jean-Pierre. Mais franchement, Jean-Pierre a la plus de crédibilité.
Jean-Pierre, il connaît le contexte.
Écoute, excuse-moi. Écoute.
Jean-Pierre.
Mais
entendu ce qu'il dit.
T'as pas entendu.
Tu aurais plus content dans la plaie, parce que peut-être que Jean-Pierre, il aurait aimé justement qu'on
non,
mais, un peu plus tôt.
À une époque, alors, peut-être, Jean-Pierre.
Moi, par rapport à tout ça, si j'étais Franck. Moi, j'essaie de me mettre dans la peau de Franck McCourt aujourd'hui. Si j'étais Franck McCourt, aujourd'hui, la seule personne qui a réussi à faire venir pour moi, des grands joueurs, un peu plus que ce qu'on avait vu depuis quelques temps, et qui m'a fait gagner de l'argent, c'est Mehdi Benatia. Alors moi, j'ai pas toujours été d'accord avec Madi, je suis toujours pas, mais je ne veux pas lui enlever une chose, c'est que c'est un très bon dirigeant, qui a un très gros réseau, qui a fait profiter de son expérience à l'OM. Et l'OM aujourd'hui, même si l'équipe elle branle un petit peu, si tu veux, il y a quand même énormément de potentiel. Et je pense que McCourt, il a pas voulu, dans un cas d'extrême urgence, en fait, tout foutre par terre, même si je pense que quand même, ça fait un grand changement par rapport à la mise à côté de Pablo Longoria. Mais aujourd'hui, il repart avec des certitudes par rapport à Bennacia. Et je pense que, quelque part, c'est pas un mauvais point.
Juste Jean-Pierre, je me permets, parce que toi, c'est un club que tu connais par cœur. Tu les as côtoyés, tous ces personnages, Mehdi Bennacia, Pablo Longoria notamment. Quand tu entends ce que Flo nous dit, quand tu vois que forcément c'était plus l'idylle entre Longoria et Bennacia et que limite on s'est dit il fallait en choisir un et c'est Bennacia qui a été choisi, est-ce que tu te dis c'était prévisible ou est-ce que tu es surpris, toi qui as vécu tout ça de l'intérieur jusqu'à la saison dernière ?
Pour moi, vu le contexte actuel, c'était prévisible. C'était prévisible qu'ils prennent cette direction-là. Je pense que Pablo, ça fait 6 ans qu'il est là. Il a toujours pas gagné un titre. Je pense que quelque part, les banderoles ont fait aussi que beaucoup ont été vexés par rapport à ça. Les supporters sont fatigués. Les supporters déjà sont importants et un peu trop importants à mon goût. Mais aujourd'hui, McCourt, quoi qu'il arrive, il devait prendre une décision. Il a pris une décision qui, pour moi, n'est pas si absurde que ça.
Comment tu vois ça, toi, Jean-Michel, alors ? Est-ce que ces décisions sont bonnes de la part de McCourt ?
Il y a ce qui se passe et ce qui se dit. Moi, la première nouvelle, c'est pas le départ de Longoria, le fait que Bennacia reste. La première bonne nouvelle, c'est que McCourt reste.
C'est
parce
sûr.
Que moi je veux bien que l'on mette des banderoles casse-toi McCourt, mais enfin si demain sous le sabot d'un cheval, si sous le sabot d'un cheval demain il trouve 600 un pigeon pour mettre 600 millions,
un gros pigeon
qu'il ne reverra jamais, parce que je voudrais aussi revenir sur certains propos concernant la balance des transferts. Moi je veux bien, la balance des transferts c'est un élément de la comptabilité au club, mais si la balance des transferts est excédentaire de 10, 20 ou 30 millions et que l'actionnaire principal était obligé d'en mettre 600, c'est qu'il y a des failles ailleurs, hein, ouais. C'est qu'il y a des problèmes ailleurs.
Moi,
je suis un bon bouseux, un bon paysan, je vois deux colonnes, la recette et les dépenses, l'une en bleu, l'autre en rouge. Si celle en rouge, elle est négative, ça veut dire que je suis un mauvais gestionnaire. 600 patates, 600 millions. Alors, je veux bien que l'on vante les mérites de l'un, et sans parler des errements de l'autre. Ça, c'est le premier point. Concernant les faux culs, c'est un peu notre faute aussi. Tu as parlé des défauts d'Hersch,
oui,
Jérôme.
Oui.
Combien de fois, quand on parle d'une déclaration, unanimité sur ceci, un cap sur cela, je vous dis, soyez pas naïfs.
Oui, c'est vrai.
Combien de fois
C'est vrai.
Parce qu'il y a des discours de circonstances et puis il y a la réalité du terrain. Flo, l'avenir de Bennacia, il est très simple. Hein, tu te qualifies, tu restes, tu te qualifies pas, tu t'en vas.
C'est sûr que ça va jouer énormément. Ouais.
Je pense qu'il n'y a pas 36 choses. Et les premières décisions de Bennacia, pour moi, et c'est notamment celle de faire revenir Abdi Bey. Je trouve que c'est courageux, Bennacia. Après, on peut discuter de tout, de la trahison. Peut-être qu'il a trahi Longoria. Peut-être pas, j'en sais rien. Je suis pas au fait de tout ce qui s'est passé dans les coulisses de l'OM. Mmh. Ce que je sais, c'est que Longoria, aujourd'hui, dehors, fuera, et on va plus en entendre. Mmh. Oui, il y a quelques années, quand est-ce qu'il y a eu cette fameuse réunion, Flo, où il y avait un directeur général qui était présenté comme l'homme fort? Je pense que ça fait un an juste ou deux ans.
Avec Stéphane Tessier, tu veux dire?
Oui.
Ah. C'était il y a deux ans, oui, environ.
Il y a deux ans, à exactement cette époque de l'année, je crois. à peu près à cette époque de l'année. L'homme fort, il a fait un mois. Hein. L'homme fort, au bout d'un mois, il a disparu des écrans. Donc, soyons vigilants là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est une décision dangereuse. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux aller au combat, tu gardes tes joueurs, tu les mets devant leurs responsabilités. Parce que
ça, c'est le fait, je pense que c'est fait, ça.
Ça a été fait aujourd'hui, oui. D'ailleurs, hein, Flo.
Oui, bah, il y a eu une réunion face aux joueurs. Déjà, cette semaine, hein, il y avait eu quand même des discours. Et Macourt, il a tenu à les voir. Et c'est vrai que c'est important que le propriétaire soit sur place parce que, Benoît, tu rappelais dans ta formule qu'il est venu mettre de l'ordre. Et c'est vraiment le sentiment que ça donne à tous les étages. Déjà, froidement, il prend des décisions, au moins sur le court terme, comme ça en avance. Il met fin au cirque parce que c'était un peu du grand n'importe quoi. Et là, il a rencontré les joueurs. Il a parlé enfin ballon d'objectifs. Il a rencontré, là, je viens d'avoir l'info, les directeurs de chaque secteur du club pour que tout le monde se remette un peu dans la concentration, le boulot et arrêter de parler, de critiquer ou quoi que ce soit. Donc voilà, il est venu, le boss.
Oui, il a recadré. Il a recadré tout le monde.
J'ai une question.
Il a recadré, mais en fait, ce qui est dommage, Flo, et c'est pour ça que moi je parle comme ça avec des mots forts, c'est que il laisse l'opportunité, par exemple à Mehdi Benatia, de communiquer comme il l'a fait.
C'est ce que j'allais
dire. C'est-à-dire que il aurait dû, s'il pensait ça depuis, parce que la mission, il l'a posé.
Peut-être c'est que Franck Macourt a manqué le timing du samedi aussi. Hein.
Juste Jérôme, c'est ce que j'ai demandé à.
T'imagines, il l'a posé le 9, la démission.
Bah non, mais on a expliqué ce qui s'est passé. Ouais. C'est qu'il a fait sa lettre en début de semaine. Franck Macourt déjà lui a demandé un peu de patienter et qu'ils allaient se voir autour du match de OM Strasbourg. Sauf que, comme je l'expliquais, le contexte du match électrique en tribune, il y a eu des coups de pression d'après-match. Vous savez qu'un petit groupe de supporters a voulu entrer de force dans le vélodrome, etc. Tout ça a fait que c'était compliqué. Donc, je pense qu'ils n'ont pas trouvé le moment. Il y a peut-être eu d'autres tensions en interne. Et c'est vrai que lui qui est impulsif, Mehdi Benatia, il a surpris tout le monde, honnêtement, dimanche matin.
Alors, justement, Flo, c'est la question que j'allais te poser. C'était l'argument majeur de la prise de parole de Jérôme tout à l'heure. Question à 1 million d'euros. Quand il fait son post, Mehdi Benatia, dimanche sur ses réseaux sociaux, est-ce qu'au fond de lui, il a déjà l'idée, à ton avis, qu'il peut rester si jamais il y a des grandes manœuvres dans le club? Ou est-ce qu'il se dit, c'est sûr, je pars?
Moi, j'y ai pensé, mais lui, je ne sais pas.
Bah, écoute,
pour être honnête, dimanche j'ai eu cette première action de me dire est-ce que va faire Franck Macourt, est-ce qu'il va rattraper par le col Mehdi Benatia, prendre des décisions et faire en sorte que Benatia va rester, peut-être que Longoria va être mis à l'écart. Honnêtement, ce scénario on est certain à l'avoir imaginé, mais moi les retours que j'ai eu, c'est que Mehdi Benatia était quand même déterminé à partir. Écoute, et qu'il en avait ras le bol.
Écoute Flo, moi je pensais comme toi, maintenant vu qu'il y a eu un revirement de situation, je pense que, en effet, un peu comme Benoît, c'est-à-dire que il avait calculé son coup. Il s'est dit, vu que j'ai une bonne cote avec l'actionnaire, écoute, c'est peut-être le moyen de mettre un coup de pression et d'écarter Pablo Longoria.
C'est toujours facile de le voir comme ça.
C'est pas après coup. C'est que je pense très honnêtement,
très fort en poker, alors, Mehdi Benatia.
Non, mais ce revirement risqué, de situation, je suis désolé, ça arrive pas tout le temps. Heureusement encore. Mais
je pense qu'il savait, qu'il allait fragiliser Pablo Longoria, Mehdi Benatia, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il avait la conviction que Macourt allait le rattraper, le convaincre et qu'il allait rester? Ça, j'en suis pas sûr. Mais oui, je pense que dimanche matin, quand Mehdi Benatia fait son poste, il sait que ça va créer des remous en interne et forcément avoir des conséquences sur Pablo Longoria notamment.
Oui, mais quand on regarde bien, quand on voit la situation du club, ok, il se passe toutes ces choses. Macourt arrive. Le club est encore qualifié en quart de finale de la Coupe de France. Ouais. Donc, t'es pas loin d'aller chercher. Tu peux peut-être aller chercher un titre. Ouais. T'es toujours dans les clous pour être en Ligue des Champions. Est-ce que quelque part, il a pas acheté aussi la tranquillité pour les trois derniers mois? Parce que trois mois, ça va vite. Il va y avoir des matchs très très souvent.
Ils ont juste à gagner.
Ils ont tout à gagner parce que c'était obligatoire. Le stade là, c'était les prémices d'une fin de saison où ça pouvait partir
en vrille.
Et que ce soit presque incontrôlable. Les banderoles, c'était le début. Ouais. Je vous dis, Pablo Longoria était dans une situation compliquée ce matin et on peut tous le déplorer. Il y a eu des tags à son encontre insultants devant la commanderie. Donc ça prenait des proportions où il fallait absolument prendre des décisions pour calmer les choses. choses, au moins jusqu'à moyen terme, enfin jusqu'à court terme, jusqu'à la fin de saison.
Mais très bien.
Et là, t'as un axe, et voilà. Maintenant, je pense que l'axe, il est, je pense pour moi, l'axe, il est pas mal par rapport à ce qu'a fait Benatia. Et même s'il a plus de pouvoir, ben voilà, moi, je pense que.
Bah écoute, en espérant qu'il soit un peu plus.
En espérant que les résultats
soient. En espérant que son choix d'entraîneur soit plus judicieux que le premier, parce que c'est lui qui a insisté pour De Zerbi, c'est un échec. Donc là, en effet, on a le droit aussi de se poser des questions, de savoir que quand t'entends les noms, et je veux bien encore entendre qu'on est en cours de saison et que c'est pas facile de trouver un entraîneur de renom avec de l'expérience, ok. Quoi que ça se trouve, si tu cherches un petit peu. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas forcément envie de se creuser la tête. Donc on verra si ce choix est.
Mais il n'est pas là le problème de l'OM aujourd'hui.
Non, mais t'as raison.
Il est dans le comportement et l'investissement des joueurs.
Oui, c'est vrai.
Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord.
Et donc Jean-Michel et Jean-Pierre.
Il n'y a même pas à dire qu'il faut un entraîneur ou pas. Il faut que les mecs se prennent. Et s'ils ne se prennent pas en charge. Et s'ils font pas le boulot comme ils le font une fois par mois, de temps en temps, comme ça, quand ils ont envie ensemble, eh bien, ils vont en subir les conséquences.
Et donc, vous pensez que pour faire réagir le vestiaire, c'est une bonne réflexion de la part de McCourt d'avoir donc confirmé Benatia après avoir été démissionnaire. Lui qui a des relations tendues avec certains joueurs, vous pensez que le fait qu'il reste.
Ça va, les relations tendues avec les joueurs.
Non, 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 mais attention, je suis pas en train de dire que c'est de la faute de Mehdi, Benatia, que le vestiaire et les joueurs, par moment, ils arrivent pas à se prendre en main, ils arrivent pas à arriver à un certain niveau. Le problème, c'est que c'est bien beau toujours de mettre sur l'atmosphère, sur la pression à Marseille, qui est énorme et tout ça. Le mental, ceci, oui, c'est dans les pieds que ça se passe, on est passé par là aussi. Donc quand tu arrives pas à sortir la tête de l'eau par ta technique et par ton talent, c'est que d'un moment il y a eu un problème de choix dans le recrutement. Et qui a fait le choix de recruter certains joueurs, qu'on me dise que c'est des grands joueurs soi-disant, c'est pas moi, hein. c'est pas McCourt, c'est un petit peu moins Longoria, je pense que c'est Mehdi Benatia.
Pas de conciliation entre Habib Bey et Rennes devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Il y avait une réunion cet après-midi, donc pour l'instant pas d'accord sur le départ officiel de Bey du stade rennais. Il a eu un entretien préalable le 12 février, Rennes a un mois pour envoyer un courrier. D'autres sources nous indiquent d'ailleurs qu'elles seraient étonnées de voir Rennes bloquer Habib Bey sur une longue durée, donc pendant un mois. Donc le dossier pourrait se débloquer rapidement. Juste une dernière remarque avec Flo Germain. Flo, est-ce qu'à ton avis, Pablo Longoria peut accepter son nouveau sort et rester, ou est-ce que ses jours sont comptés et il va s'en aller dans les jours qui viennent ?
Écoute, non, je pense que ça va se négocier. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de saison ? Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu aujourd'hui des mots sans se cacher de Franck McCourt, qui a dit qu'il s'attelait à trouver bientôt un autre président. Donc ça veut dire ce que ça veut
dire.
Il est évidemment très amer par rapport à la situation. Et donc, Pablo Longoria, je pense qu'il va trouver une porte de sortie et il faudra surveiller si c'est dans les jours ou les semaines qui viennent.
Flo, merci beaucoup. Bon courage à toi.
Merci à vous.
Ça va continuer encore cette semaine, et le match c'est à Brest vendredi pour l'Olympique de Marseille qui lancera la prochaine journée de Ligue 1. Dans un instant, parlons de la soirée qui nous attend, soirée Ligue des Champions, Monaco, Paris Saint-Germain, barrage aller de Ligue des Champions, et le projet de Pocognoli et de son bilan insuffisant à Monaco. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h33 sur RMC, on est dans Rotten sans flamme, on est dans la deuxième demi-heure et toujours en mode Ligue des Champions. Cette fois on rentre dans le match de ce soir, on va parler de Pocognoli dans un instant. À 18h45 on va recevoir un ancien joueur des deux clubs, Jérémy Ménez, un ancien de Rotten sans flamme aussi.
C'est donc le Rotenico et le Ménezico ce soir.
Exactement, on est avec Jean-Michel Larquet, on est avec Jean-Pierre Papin et Benoît Boutron. On continue, on est jusqu'à 20h, hein. Et après 19h on rentre vraiment dans ce 16e de finale.
Et dès maintenant, parce qu'on parle de l'AS Monaco. Ouais.
RMC, Rotten sans flamme.
Le sélectionneur national a creusé la tombe du football français. Sélectionneur qui ne travaille pas, qui n'a pas de conviction, qui ne délivre pas de message, qui ne parle jamais de football. Eh bien, le résultat est catastrophique, dramatique. À l'heure du bilan, je crois qu'ils sont tous à mettre au fond du même filet. Les joueurs, dont les exigences financières et matérielles sont inversement proportionnelles à leur talent.
Le procès de Rotten sans flamme.
C'était quoi sur Gérard Rouillet ou
Pathos était le sorti là. Voilà, c'était Nice Dan en 2010.
Il devait le mériter. Oh, je ne sais pas qui c'était, mais bon, il avait le temps de passer par là.
Bon.
C'était Henri Michel, non?
Non, mais non.
Non, pas Henri.
Alors, ce barrage aller de Ligue des Champions entre Monaco et le PSG ce soir.
C'est Michel Platini?
Non, c'était, on t'a dit, c'était Raymond. Ah. Monaco ne veut surtout pas vivre ce qu'a vécu Brest la saison dernière. Hein, cette défaite 3-0 à l'aller et 7-0 au retour face au Paris Saint-Germain. Il y a un léger mieux en ce moment à Monaco. 2 victoires, 1 nul sur les 3 dernières journées de Ligue 1. Le bilan de Pocogne depuis qu'il est arrivé en remplacement d'Adi Hütter le 11 octobre, 24 matchs, 9 victoires, 9 défaites, 6 matchs nuls. Ouvrons donc son procès. Le procès de Pocognoli et de son bilan insuffisant à Monaco. Le procureur, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats, bonsoir. Jérôme Rotten, Jean-Pierre Papin. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Et un supporter monégasque pour arbitrer tout ça, c'est Cédric au 32-16. Salut Cédric.
Bonsoir messieurs.
Salut Cédric.
Sois le bienvenu. Vas-y Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses du bilan de Pocognoli avant ce barrage aller de Ligue des Champions?
Ah ben moi je pense rien du bilan de Pocognoli. Oui, parce que il a cité le bilan chiffré qui est un bilan très très moyen avec le troisième budget du championnat de France. Et puis il y a les faits et puis il y a les paroles. Alors il y a des paroles. Tout à l'heure on parlait de ceux qui parlaient et qu'il ne fallait pas croire, mais quand Pocognoli, alors que son bilan est à peu près celui de Thierry Henry, grosso modo, hein, je crois qu'il est là, et Thierry Henry n'a pas été épargné comme l'est Pocognoli, quand j'entends Pocognoli, jeune entraîneur qui sans doute a des qualités, puisqu'il a été champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise alors que personne ne l'attendait, c'est très bien. Mais quand il est dans une tourmente, qu'il a un effectif qui doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, et que sa seule déclaration, c'est de dire « j'ai raison et je ne changerai pas », ça m'inquiète quand même sur la possibilité de ce garçon-là de se remettre en question. Moi, je constate que aujourd'hui, l'AS Monaco, certes, va disputer un 16e de finale de Ligue des Champions, et tant mieux pour eux, mais je constate quand même que l'AS Monaco est largué en championnat et que surtout, les joueurs ne progressent absolument pas, qu'il y en a certains qui ont même totalement disparu de la circulation. Donc, je considère que Pocognoli n'est pas un immense entraîneur comme on a le don de le présenter.
Parole à la défense, Maître Rotten. Comment allez-vous défendre Monsieur Pocognoli?
Bah écoute, ça fait 24 matchs qu'il est là. Donc en effet, là le bilan, si on doit faire un bilan et l'accuser et dire qu'il fait pas progresser son équipe, on a juste à regarder tout à l'heure Jean-Michel parlait de côté rouge et côté bleu, ouais. Sur les finances des clubs. Bah là tu regardes en effet, est-ce que tu es à l'équilibre ou est-ce que tu es plus du côté des défaites? Oui, en effet, tu es plus du côté
bilan
des défaites.
Des champions pas mal, hein. Une seule défaite dans un carton à Madrid.
C'est pour
il a tenu tête à des grosses équipes.
Ce que je veux te dire, c'est que oui, mais bon, avant qu'il se fasse virer, Adi Hütter avait fait match nul contre Manchester City. Donc ce que je veux te dire, c'est que c'est bien lié aussi à l'aspect motivation du groupe de joueurs. Donc que tu mettes Adi Hütter ou Pocognoli, en effet, je vois pas vraiment grande différence dans la prise de conscience des joueurs. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est pour Pocognoli. Ce que je veux dire, c'est que quand t'as un groupe de joueurs, et c'est pas lui qui l'a formé, ce groupe de joueurs, Adi Hütter était aussi responsable avec le directeur sportif, qui depuis a pris un peu de recul aussi, hein, Thiago Scuro. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont trompés, eux, en début d'année, quand ils ont construit ce groupe, et en nous expliquant à tous les amoureux de l'AS Monaco.
Quand tu te trompes, t'es pas bon, hein.
Oui, non, mais que ce que je veux dire, c'est que les dirigeants, Thiago Scuro, l'entraîneur, le staff, ils nous ont expliqué qu'avec ce groupe de joueurs-là, ils allaient pouvoir rivaliser en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et le RC Lens. Voilà. Et en Ligue des Champions, se qualifier assez facilement, je dirais, pour les 16e de finale. Parce que quand tu t'appelles l'AS Monaco et que tu vois l'histoire de l'AS Monaco, tu te dois d'aborder les compétitions européennes de la sorte. Un 16e de finale n'est pas une fin en soi. C'est pas une finalité, mais c'est une obligation. quand tu t'es obligé d'être dans les 24 quand tu t'appelles l'AS Monaco et que tu joues avec des champions comme l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'on a été très dur avec l'OM.
Exactement.
C'est passé ric-rac du côté de Monaco. Ric-rac. Donc, très bien. Rappelle-toi des matchs où à Paphos, ils n'arrivent pas à gagner. Contre d'autres équipes où ils ont galéré aussi.
Tour à l'arrache à Bodø/Glimt. Il y a eu des nuls.
C'est l'avocat de la défense.
Et donc, moi, en fait, ça, c'est pour aller dans le sens de Pocognoli. Pocognoli, il récupère une équipe comme ça. Avec un groupe de joueurs comme ça. Donc, lui, le plus important, c'est déjà prendre de l'expérience parce qu'il est inexpérimenté et vous l'avez dit. Donc, c'est un jeune entraîneur. Donc, tu peux pas juger un jeune entraîneur quand il arrive en cours de saison comme ça.
Mais lui, il s'est jugé quand même. Hein.
Et au bout de 24 matchs, la seule, moi, je te dis, j'attends de voir sur ce qu'il veut mettre en place. C'est vrai que l'équipe était séduisante et ses premiers discours, rappelle-toi, c'était un jeu offensif, un jeu spectaculaire. Ah bah oui. Et à Monaco, c'est comme ça fait partie de l'ADN de ce club.
Tu l'attends ce soir.
T'as besoin d'avoir une équipe qui est tournée vers l'offensive. En effet, aujourd'hui, je pense qu'en termes d'effectifs, il est limité parce que les détonateurs, du moins ceux qui doivent prendre le jeu à leur compte, que ça soit Akiyush, que ça soit Golovin, que ça soit d'autres joueurs, Minamino ou d'autres, et les attaquants, et ben ça manque de qualité technique et de constance. Ça, c'est la réalité.
Golovin, c'est pas un mauvais joueur. Akiyush,
arrête, Golovin, ça fait 10 ans qu'il est là. Il est sur quoi alternatif. Bon, l'entraîneur aujourd'hui, il cherche des solutions. Alors, et moi, c'est pour ça que je vais dans son sens. Allez. J'attends de voir encore sur la saison qu'on finisse sa saison, qu'il commence une autre saison. Ouais. Et surtout, s'il y a un petit truc, que sa communication, elle soit différente, parce qu'en effet, elle a été dramatique pendant un certain temps.
Vas-y, ça va. Alors, c'est là qui.
Bon. Allez, vas-y, Jean-Pierre.
Alors, moi, tout à l'heure, quand on a discuté de cette émission, de ce procès, je savais pas où me mettre, si je devais être procureur, je devais être
avocat.
Et puis, j'avoue que j'ai préféré être avocat parce que je me suis mis un petit peu à la place de Pocognoli. Moi, j'ai vécu la même chose quand je suis arrivé à Lens. J'étais un jeune entraîneur, j'avais eu du succès à Strasbourg. J'arrivais dans un club auquel je croyais fortement, à Lens. Et quand je suis arrivé, tout était déjà en place. Donc, quand on change d'entraîneur, on veut déjà changer les choses. Le problème, c'est que changer les choses, si tu changes pas quand même quelques joueurs, si tout le monde est en place, que toi t'arrives, tu te dois faire avec les forces vives du départ, c'est très compliqué. Changer les choses, c'est très compliqué. Pocognoli, en plus, il avait la Ligue des Champions. Nous, à l'époque, on avait la Coupe de l'UEFA. Il a eu beaucoup de blessés. Il a eu énormément de joueurs qui sont partis à la CAN. Donc ça veut dire que finalement, toutes les choses qu'il a dû changer, c'est par obligation. Il l'a pas changé parce qu'il avait à décider quoi que ce soit.
On peut pas le juger pour le moment alors sur sa patte.
Donc pour moi, le juger aujourd'hui de cette manière, je pense que c'est une erreur. Après, peut-être sa communication, elle est pas spécialement extraordinaire. Puisqu'il pense toujours qu'il a raison. Et à la limite, pour un coach, ben, tant mieux, parce qu'au moins, il a ses convictions. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas juger Pocognoli par rapport à ce qu'il a montré, parce qu'il a jamais eu, quoi qu'il arrive, son équipe type.
Oula.
Et surtout, il a eu énormément de coups durs. Et je pense que pour lui, c'était compliqué.
Bon, Cédric, je m'excuse par avance. On a très peu de temps, on est très en retard. Qui remporte ce procès? Est-ce que c'est le doublé d'avocat ou est-ce que c'est Jean-Michel Larquet?
Bah, tout simplement le doublé d'avocat. Je suis désolé pour Jean-Michel, mais c'est la vérité. En fait, il est arrivé dans un contexte qui est compliqué. Et moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est Scouro qui est responsable, essentiellement, et il se met en retrait. La chance qu'ils ont à Marseille, c'est que les mecs, quand ils ont l'impression de pas assurer, ils s'en vont, ils donnent leur démission, et nous, à Monaco, il se passe rien. Et ça, c'est lassant, en fait.
Bah, c'était très clair. Merci, Cédric. Vas-y, je t'en prie.
Non, je voulais juste dire Pocognoli pour l'avoir vu au Havre de près.
Merci Cédric, merci.
Derrière Jean-Michel. Et honnêtement, je pense que c'est un bon entraîneur, mais c'est vrai qu'il n'a pas formé son groupe, et Jean-Pierre Papin l'a très bien dit. Et voilà. Et c'était un honneur d'être avec un ballon d'or, un potentiel ballon d'or qu'aurait pu être Jérôme Rotten.
C'est vrai.
Merci beaucoup.
Merci.
Potentiel ballon d'or, il a dit quand même. Cédric, t'as été très bon. Merci Cédric.
On a été nommé dans les 40.
Allez, dans un instant. Allô Jérôme, Jérémy Ménez. Lui aussi potentiel ballon d'or avec nous pour parler justement, lancer ce Monaco PSG. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. Le Allo Jérôme avec Jérémy Ménez dans un instant. Il est en coulisses, il a envie de nous parler de ce match Monaco-Paris Saint-Germain. Et les deux clubs qu'il a bien connus. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. Benoît, après 19h, là, on rentre sur l'analyse de ce match. Un
est-ce
petit
que
peu
le plus
dur
commence pour Luis Enrique? Ah. Ça y est, les matchs décisifs en Ligue des Champions. Il attend cette période depuis le début de saison. On va pouvoir ouvrir les débats sur Luis Enrique. Supporter parisien vous attend au 32-16. Un 16e de finale aller vient de démarrer. Il oppose le Galatasaray à la Juventus, 0-0 pour le moment. Et tout de suite, on accueille donc un ancien joueur de Monaco et du PSG.
RMC, Roten sans flamme.
Il le perd rapidement ce ballon, les Lyonnais. Pas de hors-jeu, pas de hors-jeu. Avec la frappe et l'ouverture du score. Jérémy Ménez pour le Paris Saint-Germain. 53e minute pour l'instant. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est champion de France.
Allô Jérôme.
Notre ami Jérémy Ménez, consultant d'Azon, ambassadeur du PSG, est en direct dans Roten sans flamme, Jérôme.
Salut Jay.
Bonsoir, comment ça va?
Salut Jérémy, ravi de te retrouver.
Salut Jérémy.
Bah écoute, t'es en pleine forme, hein, comme à mardi en attendant le match. Hein.
Bon, écoute, ouais, j'imagine que tu vas bien le suivre ce match-là, que ça doit te rappeler des bons souvenirs, des deux côtés.
Bah écoute, que de beaux souvenirs. C'est vrai que Monaco, j'étais encore très très jeune, j'avais à peine 18 ans. Et j'étais encore au tout début de ma carrière et arrivé dans un endroit comme ça déjà et dans une belle équipe comme ça, bah c'est vrai que c'était assez impressionnant pour moi. Et puis après, bah le PSG, bah pour un petit gamin comme moi qui est né à Paris, qui a grandi à Paris, forcément porter les couleurs du PSG, c'était un rêve et donc deux clubs avec de très grands souvenirs pour moi.
Magnifique. Comment tu vois le match qui nous attend ce soir? Est-ce que pour toi il sera déséquilibré? Est-ce que tu vois le PSG archi favori et tu envisages une victoire logique parisienne ou tu te dis peut y avoir match?
Déséquilibré, j'irai pas jusque là quand même, mais pour moi aujourd'hui le PSG est ultra favori contre Monaco. Donc après. Sur un match aller-retour, tout peut se jouer, mais pour moi, ça va être assez compliqué pour Monaco vu les dernières semaines, les résultats, le jeu et un peu les résultats de cette équipe. Donc, je vois plus le PSG favori sur ces deux rencontres quand même.
Comment tu le juges ce PSG, Jérémy, alors cette saison, dans l'année d'après, après avoir fait une saison extraordinaire, raflé tous les trophées, qu'est-ce que tu en penses de ce Paris Saint-Germain-là et de la forme actuelle? Il reste sur une défaite à Rennes, il y a eu l'élimination en Coupe de France, il y a quelques matchs difficiles. Comment tu les vois? T'es confiant pour la suite de la saison ou t'as quelques doutes?
Non, moi je suis ultra confiant et je dis pas ça parce que je suis un supporter du PSG, mais je suis ultra confiant. Si on compare à la saison passée, les chiffres c'est plus ou moins les mêmes et je trouve qu'on est assez dur avec le PSG quand même. Bon alors c'est vrai que l'année passée on a frôlé presque la perfection, surtout sur les 6 derniers mois, mais encore une fois je trouve que le début de saison, malgré avec la préparation qui a été difficile, notamment sur la tournée d'avant-saison. Je pense que aussi ces deux mois-là n'ont pas forcément facilité le commencement du championnat et le reste. Donc non, moi je trouve qu'on est assez dur. Après oui, peut-être qu'il y a un manque d'efficacité aujourd'hui du côté du PSG, mais ça peut se retrouver assez facilement. Donc non, je suis assez confiant.
Vas-y Jean-Michel.
Jérémy, même s'il y a eu cette démonstration face à l'OM du Paris Saint-Germain. Tu ne considères pas que c'est peut-être le moins mauvais moment, on va dire les choses comme ça, pour prendre le Paris Saint-Germain pour Monaco?
Non, je pense pas, parce que Paris attend ce match-là depuis maintenant quelques semaines. Et vu que le PSG maintenant a gagné la Ligue des Champions, a goûté à cette victoire, on ne va pas se le cacher. Paris joue dans une autre cour et forcément a envie de reconquérir cette coupe. Donc je pense que le PSG, on va pas dire qu'ils vont commencer leur saison maintenant, mais je pense qu'ils vont réunir toutes leurs forces et refaire bloc pour repartir sur ce match de ce soir et finir bien cette saison justement.
Jérôme.
Ouais, sur moi sur l'AS Monaco, t'as beaucoup parlé du Paris Saint-Germain, Jérémy, mais bon, l'AS Monaco, on parlait de l'arrivée de Pocognoli, qui a pas eu l'effet que les dirigeants souhaitaient. Est-ce que t'es déçu de la régularité des Monégasques? Est-ce que tu t'attends en Ligue des Champions à une révolte de ce groupe et une façon de déjà sur le match aller de rivaliser, faire mieux que rivaliser avec le PSG?
Oui, je suis assez déçu de Monaco. Je suis assez déçu des résultats, parce que je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent beaucoup mieux faire. Mmh. Même si pour moi, ils ont pas forcément un effectif pour peut-être. Après, tu me diras si tu compares aux équipes comme Lens, etc. Ils ont peut-être un effectif plus costaud, mais c'est vrai que depuis maintenant pas mal de saisons, ils ont beaucoup de mal. Et je les vois mal, et je les vois mal mettre en difficulté ce PSG. Maintenant, ils ont des individualités devant notamment qui peuvent faire mal à la défense du PSG. Mais le problème, ça va être le problème, c'est que derrière Monaco n'est pas costaud du tout.
Fait un peu
peur aussi. Mm-hmm. Et le point fort du PSG, c'est quand même c'est peut-être pas ces dernières semaines, mais c'est quand même aussi l'attaque du PSG, le collectif. Donc je vois pas comment Monaco peut mettre en difficulté cette équipe, vraiment. Non, je vois pas du tout.
Est-ce que tu vois quand même, alors tu parlais des faiblesses, et c'est vrai, les faiblesses défensives de l'AS Monaco, et ça on le voit très souvent, mais un point fort de l'AS Monaco, tu axerais sur qui, toi?
Bah moi j'aime beaucoup le milieu de terrain Monaco de Monaco avec Camara, Koulibaly, même Zakaria, même si je pense que un match comme le PSG, je sais pas s'il va jouer à 4 ou à 5, mais c'est vrai que Zakaria, ces dernières semaines, quand il jouait à 5 derrière, il me plaisait beaucoup parce qu'il était très intelligent dans l'attaque aux profondeurs des attaquants.
Il rattrapait
les erreurs des autres. Ouais, ouais. Et dans la relance, il était intéressant parce que c'est un milieu de terrain qui a une bonne relance et il arrivait à casser la première ligne pour pouvoir, pourquoi pas, attaquer plus rapidement. Donc c'était assez intéressant, mais encore une fois à voir, parce que c'est des choses que Monaco fait par intermittence et qu'on voit pas assez souvent, donc on sait pas non plus à quel Monaco on va s'attendre ce soir, donc c'est pas évident.
Tu dois être déçu des détonateurs, des ceux qui sont là pour prendre le jeu à leur compte, Golovin, Akliouche, en plus Akliouche est incertain aujourd'hui.
Les Ménès,
j'imagine. Aujourd'hui. Non mais forcément, ça attire d'autant plus l'œil quand t'as été un joueur comme ça. Forcément, la régularité. Et puis leur niveau laisse à désirer très souvent.
Moi pour parler de ces deux joueurs, c'est deux joueurs que intrinsèquement j'aime beaucoup.
On aime
beaucoup,
bien,
beaucoup.
Ouais.
Mais Golovin, maintenant ça fait pas mal d'années qu'il est à Monaco et c'est vrai que il réussit pas à montrer tout son talent sur une saison entière parce que Dieu seul sait qu'il en a beaucoup. Mais malheureusement, il n'arrive pas. Donc c'est un problème aussi pour Monaco justement. Et Akliouche, que j'aime beaucoup aussi, mais je pense qu'il faut qu'il muscle plus son jeu à un moment donné. Parce que les qualités, il les a. Mais des fois, sur les 15-20 derniers mètres, on a l'impression que des fois, il peut avoir un peu plus de mal ou se faire bouger par les défenseurs. Donc je pense qu'il faut qu'il muscle son jeu, qu'il varie aussi un peu plus son jeu. Et voilà, donc dans sa progression, c'est important d'aller chercher ça parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités et qui est encore jeune. Donc il est, pour moi, il est encore temps de le faire et de toute façon c'est à lui de se prendre en main et d'aller chercher ça, quoi.
Jérém, dernière question en deux mots, est-ce que t'as compris la com de Dembélé après Rennes? Est-ce que tu te dis c'est bien que les joueurs parfois disent ce qu'ils pensent ou est-ce qu'il aurait dû s'abstenir comme ça de parler des cas individuels?
Alors sur le fond je suis d'accord avec lui, sur la forme un petit peu moins. Après, je peux comprendre que ça soit à la sortie d'une défaite contre Rennes, on a encore un peu à chaud, ou des fois il y a peut-être un mot en trop qui nous échappe ou quoi, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait dû peut-être se régler le lendemain, une petite discussion entre tous dans les vestiaires. Et justement, les discussions comme ça entre nous, ça fait toujours du bien. Après, parler des fois à la presse comme ça, c'est jamais évident. C'est jamais évident parce que des joueurs peuvent se sentir concernés. Et voilà. Mais connaissant Ousmane Dembélé, qui est quand même quelqu'un très aimé dans le vestiaire et qu'on connaît tous. Ouais. Je pense que c'était plus maladroit qu'autre chose.
Jérôme, merci beaucoup. Bon
merci
match ce soir.
Bon match.
Avec plaisir. Plaisir. Bon match à tous. Bonne soirée à tous.
T'es pas à Monaco là.
Merci Jérôme.
Non, je suis sous le froid parisien là.
Ah d'accord. Okay. Ah, parce que je me suis dit, il va finir au SAS sinon.
Oh là.
Ah,
bon.
Moi j'aimerais bien.
Merci Jérôme.
Allez, salut Jérôme.
Bonne soirée. Bon, bon, bise.
Et on lance ce grand match ce soir, 16e de finale, aller de Ligue des Champions dans un instant. Est-ce que le plus dur commence pour Luis Enrique? À tout de suite sur RMC.
Salut Jérôme, Rémi.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.